France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mais Vous Fasse Plaisir. Friends, Malcolm, How I Met Your Mother, The Office, Les Simpsons, 10%, Scène de Ménage. Nous célébrons ce matin le plaisir de regarder des séries humoristiques. Qu'est-ce qui différencie les comédies ciné et sérielles? Quels sont les ingrédients pour réussir une bonne série comique? Éléments de réponse avec nos invités Pierre Langlais et Frédéric Sigrist qui partageront une petite sélection de séries qui font rire. Bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour Ali.
Alias Princesse Christine, critique à Libé Polar. Quel est le menu de votre plaisir littéraire?
Eh bien, mon plaisir est un peu ciné. Je vais un peu casser l'ambiance avec un auteur irlandais qui s'appelle Paul Lynch.
Bonjour Céline Puertas.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef adjointe du magazine Et la Table. Au menu pour se régaler ce week-end?
Alors oui, moi j'ai entendu le thème de l'émission série, donc évidemment j'ai pensé plateau télé, hein, parce que toute occasion est bonne pour manger. Aujourd'hui, je vous explique comment préparer une brioche perdue salée à déguster tranquillement étalée sur votre canapé.
Ah là là, ça promet. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Prof de philo dans le monde réel, quoi de neuf dans votre chronique philo tout à l'heure?
Eh bien, j'aurais pu vous proposer une chronique qui s'appellerait « Peut-on rire de tout ?» mais je vous ai épargné cette question.
Merci.
Et donc, on va prendre le problème par un autre côté. Et on va se demander qu'est-ce qu'une mauvaise blague.
Bonjour Guy Metodicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma à Télérama dans la vraie vie, qui deviendra notre ami cette semaine?
Eh bien, écoutez, c'est la mère.
Ah bah oui.
C'est la mère. C'est the mother of the series.
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Comédienne et humoriste, bande-annonce de votre chronique Mauvaise Langue.
Eh bien, je vais vous proposer un remède pour éviter ce monde de brut dans lequel nous vivons.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Et vous avez peut-être reconnu le générique de How I Met Your Mother. Bonjour Pierre Langlais.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste à Télérama et vous avez publié trois livres essentiels chez Armand Collin. Créer une série, incarner une série, réaliser une série. Bonjour Frédéric Sigrist.
Bonjour Ali.
Comédien et humoriste, producteur de blockbusters sur France Inter, en podcast en ce moment sur l'appli Radio France. Alors Pierre Langlais, la première question fondamentale tombe sur vous. Qu'est-ce qui différencie une comédie sérielle et une comédie au cinéma?
Bon, à vrai dire, je pense pas grand-chose autre que la sérialité elle-même, c'est-à-dire cette inscription sur le temps long et le côté intimiste, si j'ose dire, des séries. On se posera la question de ce que c'est qu'une mauvaise blague. Bah, là, à la télévision ou sur les plateformes aujourd'hui, sur le temps long, eh ben ça peut être une blague qui dure des années. Et donc, ça permet de mettre en place des mécanismes. On a entendu le générique d'How I Met Your Mother, dont une des spécificités, c'était ce qu'on appelle en bon français la private joke, la blague. On va vous faire une blague et 5 ans plus tard, il va y avoir la réponse à la blague qu'on a posée 5 ans plus tard. Donc, il y a en fait toute une construction narrative qui fait que l'humour est en 14 dimensions, et ce que le cinéma ne peut pas faire, évidemment, sur 2 ou même 3 heures.
Frédéric Sigrist.
Je dirais que la différence, elle est surtout sur l'évolution du personnage. Dans une comédie en tant que film, on peut prendre vraiment quelqu'un de détestable et le faire aller d'un point A à un point B et le faire évoluer sur, très rapidement finalement. Alors que pour la série, dès le début, dès le premier épisode, il faut que les personnages aient une personnalité qui soit suffisamment attractive et charmante pour que le spectateur ait envie d'y revenir le lendemain, puis le surlendemain, la semaine d'après, etc., etc. Et on les fait évoluer plus longtemps. Le temps est beaucoup plus long.
Sandra Colombo, je rappelle que vous avez écrit un livre sur l'humour.
Tout à fait, qui s'appelle « Faites l'humour dès le premier soir
». Oh,
oui. Oui, je crois que ce qui fait aussi la force d'une série comique, c'est qu'on a le temps de... En fait, on a plusieurs personnages à disposition pour s'attacher. Et forcément, on peut revenir, même si on n'aime pas le personnage central, par exemple, il y a des personnages secondaires ou tertiaires qui sont extraordinaires, notamment dans les séries américaines où ils sont très très forts pour ça.
Guy Metodicino.
Au cinéma,
vraiment dit, alors, oh, c'est un film choral. Ça veut dire, ouh, il y a au moins, il y a plus que trois personnes à l'écran. Dans une série, à part certaines qui reposent évidemment que sur un couple ou quoi, la définition même, c'est que c'est choral. C'est-à-dire qu'il y a le voisin, la tante, la belle-mère, le... Enfin, donc déjà, il y a une galerie de personnages qui... Chaque personnage va être fouillé. Puis en plus, on parlait d'humour, mais vu que certaines séries américaines ont commencé sur des toutes petites chaînes câblées, les producteurs et les scénaristes se foutaient complètement d'être choquants, du genre d'humour qu'ils employaient. Il y avait quelque chose... Quand Pierre parlait de la private joke, il y avait même une private joke au sens où on écrit n'importe quoi, les vannes qu'on veut, qui nous font rire, nous. Si vous aimez ça, tant mieux. Et en fait, ça a développé une liberté dans l'humour qui n'est pas toujours présente dans les films qui sont censés, évidemment, rassembler le plus grand nombre.
Pierre Langlais.
Non, mais c'est vrai, et en fait, ça fait que la série télé, encore aujourd'hui, est un laboratoire. Alors après, il faut évidemment faire des distinctions entre... C'est comme il y a le cinéma hollywoodien et puis les petits films indépendants. Enfin voilà, il y a série et série. La sitcom, Frédéric parlait de la construction des personnages. La sitcom a ce de particulier, de les personnages n'évoluent pas.
Exactement.
C'est le principe même, c'est que ça va être des archétypes et qui vont évidemment avoir des événements dans leur existence, mais qui vont... Regardez, Joey dans Friends, pour parler de la plus célèbre, fait les mêmes blagues et globalement est le même type pendant plus de 10 ans.
Donc il mange le même sandwich.
Et voilà, donc il y a aussi cette particularité, c'est que le temps long permet de malaxer, de changer, ou au contraire, de développer une infinité de possibilités avec des figures imposées.
Frédéric Sigrist.
Et en plus, dans la sitcom, il y a cette possibilité de tester, c'est-à-dire d'être dans des humours qui ne sont pas forcément les humours les plus évidents, validés par des actionnaires ou par des directeurs de chaîne. On le voit sur beaucoup de sitcoms, les premières saisons, il y a toujours un ajustement, mais on laisse le temps quand même pour voir si c'est un humour qui va prendre, si les spectateurs vont être au rendez-vous. Et ça, au cinéma, ce n'est pas possible. Il faut vite qu'on soit efficace, donc on va vers les évidences les plus grandes.
Alors, vous parliez de la sitcom à la comédie de situation. La sitcom, un genre qui peut être caricaturé avec beaucoup de gens sont agacés par les rires qu'on y entend. Il faut juste rappeler que dans la sitcom américaine, elle est tournée en public, bien souvent. Alors, parmi les meilleures sitcoms de ces 30 dernières années, on peut citer Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother ou encore The Big Bang Theory. Alors, The Big Bang Theory, créé par Chuck Lorre et Bill Prady en 2007, une bande de geeks qui devient amie avec une jeune femme blonde apparemment moins intelligente qu'eux. Le comique de The Big Bang Theory, qui repose sur des situations, des punchlines, des répliques irrésistibles, et une incarnation des personnages absolument incroyables, notamment avec le personnage culte de Sheldon Cooper, interprété par Jim Parsons, absolument irrésistible. Et je vous en parle, Pierre Langlais, parce que vous avez consacré l'un de vos livres à incarner une série. Et là, on a un personnage qui a une vis comica absolument incroyable, donc ce Sheldon Cooper, dans The Big Bang Theory.
Oui, et qui, alors, pour le coup, est à la fois l'archétype du personnage figé, c'est-à-dire que c'est le geek dans sa version la plus extrême. Certains diraient presque sur le spectre autiste, mais en fait non, mais il est quand même, oui, alors c'est jamais complètement défini, mais en tout cas c'est un garçon qui a beaucoup de mal à être dans la société, et du coup ça en fait un mécanisme comique. Mais une des particularités de cette série, et c'est risqué mais elle l'a fait quand même, c'est qu'on va quand même confronter ces personnages-là à l'autre, à l'altérité, et qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre évoluer. Et c'est là qu'il y a un double défi qui est passionnant et qui est aussi assez instructif d'un point de vue humain, c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un archétype quand il est confronté à l'autre et qu'il doit réagir, devenir autre chose? C'est un peu nous aussi, hein, c'est un peu, on est tous une sorte d'archétype, et comment on va grandir au contact de l'autre.
Guillemette.
Non, mais ce qui est assez miraculeux avec The Big Bang Theory, c'est que avec des personnages qui sont censés être loin de nous, enfin, on est tous un peu geeks dans l'âme, enfin, certains, comme, mais il y avait effectivement...
Christine Fernio est très geek.
Oui, Christine Fernio est très geek. Mais cette chose de se reconnaître, en fait, dans les personnages, ça, c'est ce qui vraiment caractérise, je pense, les sitcoms les plus réussis. C'est-à-dire que quel que soit le côté archétypal, tout d'un coup, on se dit, mais ouais, mais en fait, je suis quand même comme ça. Je suis tout aussi bordélique, ou tout aussi obsédée, ou tout aussi... Enfin, donc, en fait, vraiment, cette chose de se reconnaître dans quelqu'un qui, normalement, est hyper loin de nous, c'est ce qui fait à chaque fois, moi je trouve la recette d'une sitcom réussie.
Alors, ce qui fait la particularité des sitcoms aussi, il faut quand même le dire, c'est que, alors on continue de les regarder, c'est des séries qui ne vieillissent pas trop mal. Alors, même si il y a beaucoup de discussions autour de Friends hein, et de certaines blagues qui ont pris quelques années, c'est que c'est quand même aussi un genre, il faut le dire, en lente disparition, mais qui en fait reste une matrice. La première série de l'histoire, enfin c'est pas vraiment la première, mais celle qu'on dit comme la première série moderne, I Love Lucy, au début des années 50, c'est une sitcom avec déjà les codes très proches de ce que c'est qu'aujourd'hui, donc c'est rire, c'est décor fixe, etc. Et sauf que en fait c'est un train doucement de mourir, la sitcom, et c'est remplacé par des formes de comédie qui sont filmées avec moins de caméras à l'épaule, dans des décors naturels, etc. Mais en fait, qui restent des comédies de situation, c'est juste que c'est en train d'évoluer et que la comédie est en train de se diversifier.
Alors, une bonne série comique, on l'a dit, repose sur l'interprétation, sur l'incarnation. Exemple avec Scène de ménage, où il y a des comédiens qui ont une vis comica absolument incroyable. Je prends l'exemple de Frédéric Bourali qui interprète José, Vinnie Dargaud qui joue Léo, ou encore Claire Schust qui joue Leslie. On pourrait tous les citer. Voilà, un bel exemple d'incarnation et de comique qui passe par l'interprétation, Frédéric Sigrist.
Complètement, mais en plus, il y a, de par le format programme court,
ouais.
Il y a un côté batte de baseball de l'humour qui arrive à chaque session. C'est-à-dire que si on regarde un premier épisode en se disant « Ouais, bon, c'est déjà vu », et puis tout d'un coup, on enchaîne sur un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et en fait, ça vous a à l'usure. Vous savez même pas si c'était le troisième ou le quatrième que vous avez vu. Vous dites « Ah, ça, c'est rigolo !» Et en fait, c'est fini, vous êtes piégé. Et c'est l'accumulation, en fait, qui crée une sorte d'attachement et au bout d'un moment, une forme de dépendance.
Oui, et qui constitue aussi une forme de limite, hein, la pastille façon Scène de ménage. Alors il y en a évidemment des très très marquantes. La plus iconique de l'ère récente, c'est Kaamelott. Alors sachant que Kaamelott, c'est précisément le contre-exemple, puisque au fur et à mesure, ils se sont détachés de la pastille pour devenir une histoire tellement au long cours que ça devient une série de films. Mais la pastille, ça va 5 minutes, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que c'est que des blagues, et du coup, d'un point de vue de la construction narrative, de ce que ça dit en profondeur de nous, de notre humanité et tout, c'est quand même plus limité.
Kaamelott, c'était pas que des blagues, hein.
Non, pas du tout, mais c'est un contre-exemple.
Et il faut aussi préciser que l'invention de ces programmes courts, c'était pas des raisons glorieuses, hein. C'était pour vendre beaucoup plus d'espace publicitaire et casser des tunnels de pub en mettant un petit programme court, comme ça on peut remettre de la pub juste avant et juste après.
Allez, il est temps de retrouver le plaisir littéraire de la geek Christine Ferniaud de Libé Polar. Christine Ferniaud, vous avez donc choisi Le Chant du Prophète de Paul Lynch et c'est publié chez Albin Michel.
Oui, alors je mets un petit peu le pavé dans la mare. Alors je ne suis peut-être pas geek, mais je suis bordélique. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui tient. Oui, je voulais vous parler pour la rentrée de janvier, pour mettre un peu de sombre dans cette vie tellement joyeuse de cette équipe.
Merci à Christine.
Vous parlez du Chant du Prophète, le nouveau livre de Paul Lynch qui vient d'obtenir le Booker Prize.
Alors, je te prie.
Oui, magnifique prix, magnifique livre, magnifique auteur. Il est irlandais, il est même de Dublin, et on pourrait penser que c'est une dystopie, mais en fait, c'est plutôt ce qui se passe, c'est plutôt une menace, c'est-à-dire Dublin, l'Irlande, sous pouvoir totalitaire, c'est venu à peu, comme ça a grignoté, et tout passe par le point de vue de Eilish, c'est une femme, alors c'est pas du tout une femme modeste, elle est biologiste, elle est mariée et très amoureuse de son mari, elle est mère de 3 enfants, deux ados et un bébé. Et un jour, à la porte, 2 policiers arrivent, ils cherchent le mari qui est un responsable syndical mais qui a un métier tout à fait classique. Il est arrêté, il disparaît. Et d'un seul coup, la marche classique de nos vies à tous va complètement se casser, c'est-à-dire que le fils va être enrôlé, il y a une guerre civile, et Eilish, elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que pour elle, ça n'est pas possible qu'aujourd'hui, à Dublin, dans un monde policé classique, il puisse y avoir la peur, la mort, et c'est pas une héroïne qui va réagir devant le chaos, mais c'est au contraire une femme qui essaye de rester là où personne ne veut rester. Et ce qui est formidable dans ce livre, moi qui m'a énormément émue, c'est que Eilish, c'est moi. c'est vous, c'est nous tous, c'est nous dire mais non, mais c'est on n'est pas en Ukraine, on n'est pas en Syrie, on est à Dublin aujourd'hui et c'est la même chose. Et peu à peu, l'engrenage va aller de plus en plus vite et on va la retrouver à fuir, à se retrouver sur un bateau, à être une migrante, elle qui était une jeune femme biologiste de haute qualité et de moyens classiques. Et ce chaos-là, Paul Lynch le rend magnifiquement bien. Et si j'ai des larmes dans la voix, c'est aussi parce que je n'arrive pas à me remettre de ce livre. Ah oui, c'est traduit par Marina Borasso, et qui est une championne de la traduction là-dessus. C'est fantastique.
Et elle a réussi son coup, parce qu'on est 7 à lorgner sur son livre. On veut tous lui
Exactement. Piquer. On sait que c'est Ali qui va l'avoir.
Bah oui.
Le chant du prophète de Paul Lynch chez Albin Michel.
Non, ce qui est très intéressant, c'est que la façon dont vous en parlez me fait penser à une série qui commence ces jours sur Canal+, qui s'appelle Families Like Ours, qui est fait par Thomas Vinterberg, danois,
réalisateur de cinéma,
et qui met en scène une famille bourgeoise danoise qui doit immigrer, qui doit partir parce que le Danemark se retrouve sous les eaux, et qui donc, en fait, c'est cette inversion de l'image qu'on a du migrant en prenant des personnages qui nous ressemblent.
Redonnez le titre.
C'est exactement...
Families Like Ours.
Mais c'est drôle parce que j'ai regardé les deux premiers épisodes qui ont été diffusés, et je me suis dit, mais oui, c'est encore la vie quotidienne qui vient nous balloter, nous secouer.
Christine Ferniaud, on peut recommander la visite de la rubrique Libé Polar sur libé.fr.
Et pour une geek comme moi, ça n'est pas rien.
El Piaf comme Edith, ouais, j'essaye de faire de l'humour. Guillemette Odissino et son ami du vendredi.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Logiquement, il y a des règles pour contre ça. Faut pas faire ça.
Il a vraiment écrit.
Il a écrit
Piaf comme Edith. Waouh.
Alors, Thibaut, il va nous parler des mauvaises blagues, non ?
C'est plus la peine. Hein,
ça, c'est pas un lancement. Voilà. Et bonne année. Alors, donc, cher Ali. Puisque nous parlons humour, hein, et que nous parlons série, il faut que je vous dise mon amitié pour Lucille Ball, qui fut tout simplement la mère de toutes les sitcoms. Oui, c'est elle qui inventa les bases de la télévision moderne, devenant un véritable phénomène américain grâce à sa série, dont parlait Pierre tout à l'heure, I Love Lucy. Alors, il était une fois une rousse flamboyante qui fut une épatante chorus girls des Ziegfeld Follies, mais ne réussit pas à faire une grande carrière au cinéma. En plus, sous prétexte qu'elle était canon, Hollywood lui interdisait d'être drôle. Super. Alors qu'à cela ne tienne, en 1951, alors que la télé américaine balbutie encore, elle imposa, à 40 ans, une sitcom qui allait réunir 40 millions de spectateurs chaque semaine de 1951 à 1957. Pour I Love Lucy, en plus, elle réussit à faire embaucher son propre mari à la ville, Daisy Arnaz, un immigré cubain, pour jouer son mari à l'écran. Pour cette série, alors donc domestique à double titre, Lucille tenait un dispositif inédit de mise en scène. Elle s'adressa donc carrément à Karl Freund, le plus grand chef-op de l'expressionnisme allemand, qui avait éclairé par exemple Métropolis de Fritz Lang et était exilé aux États-Unis depuis les années 30. Bon alors Karl, il était plus tout jeune, mais pour l'irrésistible Lucille, il conçut un dispositif avec trois caméras qui tournaient sans cesse et un gradin donc où le public assistait en direct à l'enregistrement des séquences entières sans pause ni coupe. Bah donc, c'est une technique toujours en vigueur dans le sitcom moderne. Et Lucille eut toute liberté pour montrer qu'elle était un exceptionnel corps burlesque. Alors pour s'en convaincre, il suffit de regarder sur internet l'épisode Job Switching et la scène où Lucie et sa copine Ethel enveloppent des chocolats dans l'usine de confiserie. Ce moment de comique mais effréné date d'il y a 60 ans, mais reste considéré à raison comme un des plus grands moments de la télévision américaine.
L'épisode s'appelle donc Job Switching. Et donc on peut dire, Guillemette, que votre Lucie était féministe.
Alors bon, on est dans les années 50 hein, quand même, mais dans la série, elle joue donc Lucie. Alors c'est l'épouse américaine type, en robe de chambre à plumetis, avec des bigoudis, mais bourrée de fantaisie et de revendications. Son mari Ricky dirige le club Tropicana. Alors à chaque épisode, elle tente de s'imposer dans le spectacle de son mec. À chaque épisode, Ricky refuse. Il veut qu'elle reste une femme au foyer. Bon, et ben c'est donc au foyer que Lucie fait son show. Et quel show ! Mais le seul fait que ce couple soit interethnique à l'écran dans les années 50, c'est déjà une révolution. Et lors de la seconde saison, Lucille incorpora carrément sa propre grossesse et la naissance de son deuxième enfant dans la série en programmant sa césarienne pour coller à la fiction. Donc c'est à se demander si elle n'est pas aussi la mère des émissions de télé-réalité. Avec son mari, elle avait créé son propre studio, le Désilu Production, dont elle assura seule la direction après leur divorce en 62, ce qui en fait aussi la première femme à avoir dirigé un studio à Hollywood. Studio qui, par la suite, a produit des séries comme Star Trek, qui invente la SF sur petit écran, Les Incorruptibles ou Mission Impossible. Bon, franchement, comment voulez-vous ne pas crier « I love Lucille »
Pierre Langlais.
Et pour ceux qui, d'ailleurs, voudraient voir, en tout cas, une partie de cette histoire-là, Aaron Sorkin, exactement, grand nom de la série télé, un créateur de À la Maison Blanche, a fait un film qui s'appelle Being the Ricardos, avec Nicole Kidman
dans le rôle.
Voilà. Et qui résume une partie de leur vie, en tout cas, qui donne un peu de lumière à cette histoire.
Qui parle du moment où elle a été accusée d'être communiste. Mon Dieu, quelle horreur.
I love Lucy, évidemment, ultra célèbre aux États-Unis. On n'a pas vu cette série en France. Hein.
Elle est passée dans les années 90 sur Teva pendant deux secondes et demie. Voilà. Après, vous pouvez regardez vraiment plein d'épisodes qui sont diffusés sur Internet, un peu les meilleurs ou des petits bouts, mais franchement, regardez-la, c'est un truc de dingue.
Hein. I love Lucy et tous les épisodes de L'Ami du Vendredi de Guillemette Odissino sont à podcaster sur l'appli Radio France. Dans un instant, une sélection de séries comiques à regarder bien au chaud, sous la couette. Ce sera juste après avoir écouté Fatboy Slim qui interprète Prize You, une chanson de 1998.
We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I
Fatboy Slim interprété Prize You.
France Inter.
On a une commande.
Ouais,
une série.
Yes.
Française.
Non.
Si.
Non.
Si.
Non.
Et quoi, il y en a des biens.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Grand bien vous fasse plaisir. Nous célébrons ce matin le plaisir de regarder des séries humoristiques avec le journaliste de Télérama Pierre Langlais et avec le comédien et producteur de Blockbuster sur France Inter, Frédéric Sigrist. Alors vous avez peut-être reconnu ce générique, c'est le générique du Prince de Bel-Air qui a vu débuter Will Smith et que l'on peut voir actuellement sur la plateforme Max et en DVD. C'est votre choix, Pierre Langlais.
Oui, parce que alors non seulement d'un pur point de vue personnel, c'est une des premières séries, moi vraiment, que j'ai regardé régulièrement à la télé française au cours des années 90. Alors on parlait de Vista Comique, il suffit de regarder, mais 10 minutes du premier épisode, Will Smith est un monstre de timing, de drôlerie, de physique, de tout en fait. C'est une machine comique.
Ça raconte quoi ?
Pardon ? Ça raconte l'histoire bien sûr de Will Smith, mais qui est un double de fiction de Will Smith lui-même, qui était à l'époque essentiellement un rappeur, qui est un gars de Philadelphie, de la rue, et qui suite à quelques violences est envoyé par sa mère chez son oncle Phil dans les beaux quartiers de Los Angeles, dans une famille noire américaine comme lui, mais une famille riche, une famille de droite, une famille qui représente une autre Amérique noire. Et c'est ça qui est à la... Donc il y a donc Will Smith, et il y a en fait, il faut revoir ces premiers épisodes du Prince de Bel-Air pour réaliser à quel point ils sont politiques et à quel point ils font écho à plein de choses qui se sont déroulées ces dernières années aux États-Unis, puisqu'est posée la question de qu'est-ce qu'être noir en Amérique. Et elle est posée de manière assez frontale, de manière assez conflictuelle. Et c'est absolument passionnant de revoir cette série aujourd'hui.
Frédéric Segrist.
Évidemment, et puis sans oublier Carlton, Alfonso Ribeiro, voilà, le cousin de Will, engossé dans sa petite veste et avec son pull à jacquard et qui fait ses danses incroyables. Et puis le majordome aussi, Jeffrey qui est
Et Jazz, qui se fait jeter par la porte.
Par la porte à chaque fois. Non, vraiment, c'est collector.
Le Prince de Bel-Air sur Max. Alors Frédéric Segrist, vous avez choisi une série humoristique animée, Daria, de Suzy Lewis, disponible en DVD.
Mais évidemment, parce qu'on parle de séries comiques live, mais il ne faut pas oublier l'apport de l'animation dans l'humour sur petit écran. Et Daria, à l'époque, c'était...
Ça raconte quoi ?
Alors, Daria, c'est une jeune fille complètement apathique, extrêmement intelligente, dans un lycée où c'est exactement ce qu'on peut voir dans les sitcoms habituels, où il y a les sportifs, les pom-pom girls et tout ça, sauf qu'elle regarde tout ça de manière très désabusée. C'est un spin-off, une série dérivée de Beavis and Butthead sur MTV, et le personnage a tellement plu, cette petite rouquine avec des grosses lunettes rondes, toujours avec un ton neurasthénique qui balançait mais des punchlines assassines sur tout le genre humain, que ce soit ses parents, sa mère, avocate, qui n'a pas de temps pour ses enfants, son père, névrosé au dernier stade, qui pleure quasiment à chaque fois qu'il prend la parole, parce qu'il a tellement de traumas qu'il n'a pas résolu depuis l'enfance. Et en même temps, elle devient amie avec Jane, qui est une artiste fils de hippie des années 70, et avec Jodie, une jeune fille noire très intelligente aussi, et à travers elle, on se rend compte que tout le côté un petit peu donneuse de leçons qui prend du recul avec la société de Daria, elle-même se rend compte que, ah bah oui, mais Jodie, elle peut pas être comme moi parce qu'elle est noire aussi. Et donc, en fait, tout le questionnement moderne sur l'intersectionnalité qu'on peut connaître aujourd'hui, c'était déjà dans Daria, et c'est vraiment novateur, ça n'a pas pris une ride.
Pierre Longlet.
Non, c'est vrai que c'est une des séries cultes animées, alors évidemment, qui est moins connue que les Simpsons, mais où il y a aussi un côté très punk, enfin oui, rock'n'roll. C'est l'époque, c'est l'époque où dans toutes ces séries-là, il n'y avait que de la grande musique. Les choses ont un peu changé. Bref, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un très fort marqueur générationnel.
Céline Puertas.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, moi, ce côté anti-héros, bon, personnellement, j'ai 40 ans, et c'est une série que je ne loupais jamais un épisode, ça m'a marqué. Et surtout, de se reconnaître dans ces gens qui sont unpopular en anglais,
impopulaire.
Ça fait quand même du bien, quoi, quand t'es ado.
Daria à voir en DVD. Pierre Longlet, une série américaine sortie l'an dernier sur Netflix, Espion à l'ancienne de Michael Schur. On doit à Michael Schur la série The Good Place, et il a publié un livre absolument formidable en poche chez Point, s'appelle Comment être parfait, les réponses aux questions éthiques que vous posez. Et donc là, il est le showrunner, le créateur donc de cette série Espion à l'ancienne sur Netflix.
Oui, alors titre nul à la française,
ouais, ça donne pas
c'est
envie,
un grand classique, le titre américain c'est A Man on the Inside, donc un homme à l'intérieur. C'est en plus, alors ce qui est dingue, c'est que c'est adapté d'une histoire vraie qui s'est passée en Amérique latine, d'un retraité qu'on a envoyé en maison de retraite pour mener l'enquête parce qu'il y avait des suspicions de maltraitance. Là, c'est un peu différent, c'est un vol. Et donc, ce type qui est joué par Ted Danson, l'immense, le grand Ted Danson, qui était aussi un des héros de The Good Place, se retrouve catapulté. Donc, lui, il est en deuil, il a perdu sa femme, il a plus trop envie de rien, et il accepte, comme ça, sur un coup de tête, de devenir un peu enquêteur dans une maison de retraite. Comme ça, ça va être un peu spécial, mais alors c'est une série qui non seulement arrive à rire assez intelligemment des difficultés du grand âge, mais le fait avec une douceur, avec une intelligence. En fait, ça parle quand même de résilience, de fin de vie et de plein de choses, mais sans jamais être lugubre et en ayant toujours en tête que, quand on est près de la mort, on est toujours en plein dans la vie. Et c'est du coup hyper émouvant.
Espion à l'ancienne, et c'est sur Netflix.
Petite leçon. Ce qu'il faut savoir quand on fait une farce, c'est où ça commence et où ça s'arrête.
Oui.
Alors maintenant, Jim, il serait peut-être temps d'arrêter de mettre les affaires personnelles de Dwight dans de la gelée.
Très bien. Je te présente mes excuses. Cette histoire de gelée, ça vaut bien une tarte.
Génial. Vous voyez, c'est comme ça chez nous. C'est toujours à celui qui en sortira une bonne.
Vous devriez peut-être le renvoyer en un éclair.
Bravo. Ouais. Il est des nôtres.
C'est très intéressant, mais je crois que le souci prioritaire, c'est de respecter les biens de l'entreprise. C'est tout.
Pudding? Biscuit? J'essaie de trouver un autre dessert.
Frédéric Sigrist, un chef-d'œuvre de la série comics, c'est évidemment The Office, créé par Ricky Gervais et Stephen Merchant. Et vous avez choisi la version américaine avec Steve Carell sur Netflix.
Exactement. Et ça a été difficile parce que je suis un grand admirateur de Ricky Gervais. Mais justement,
le créateur britannique
de The Office. Mais justement, il joue tellement bien dans la version anglaise. Et il est tellement... Il amène le trouble dans le cerveau du spectateur, qu'il amène presque une sorte de malaise qui est en filigrane et qui me dérange un chouïa trop,
pas presque. Hein.
Il est gênant.
Oui, il est gênant.
Ah ouais, c'est gênant, c'est absolu.
Alors que
c'est
Steve Carell, on sent que il a ce visage tellement comique. Ouais. Il y a toujours ce petit décalage, ce tout petit coup de coude qui fait que ok, on est quand même là pour rire.
Et ça raconte quoi pour ceux qui n'ont jamais vu The Office?
Ça raconte, alors c'est une entreprise, un imprimeur, avec un chef qui est l'incarnation de la médiocrité et de la bêtise, mais d'une bêtise qu'on peut croiser tous les jours, partout. C'est-à-dire que je pense que le personnage de Steve Carell est au diapason de l'époque. Et c'est pas un hasard si énormément de mèmes de The Office sont réutilisés pour parler du gouvernement, de plein de choses, parce que il incarne quelqu'un qui est bête, mais qui ne s'en rend pas compte, et qui va, par exemple, être vraiment raciste, misogyne, politiquement incorrect, mais en imaginant qu'il est progressiste. Et donc, en fait, on voit tous ses collaborateurs qui, eux, ont totalement conscience que c'est un abruti. Mais lui, qui regarde en plus la caméra, parce qu'il y a ce documentaire dont il est très, très
fier. C'est un faux documentaire.
Et il y a des moments de malaise, orchestrés, qui sont, divins.
Guillemette.
Oh oui, non, mais de toute façon, enfin, c'est l'intelligence. En plus, vraiment, moi aussi, je suis d'accord. Moi, je suis complètement fan de Ricky Gervais et ça ne me dérange pas, vu le génie, ce génie britannique, d'être un peu dans la gênance dans la version britannique. Mais Steve Carell aussi, enfin, c'est très rare d'avoir comme ça une série qui réussit à être aussi intelligente dans sa première version et dans son remake américain. Toutes ces deux versions sont des chefs-d'œuvre.
Pierre Longlet.
Oui, et The Office, en tout cas la version anglaise et la version américaine a confirmé, a lancé deux choses, en tout cas propulsé le mockumentaire, comme on dit, donc toutes ces séries en faux documentaire où il y a des regards caméra gênés, etc., qui créent une empathie, qui créent quelque chose d'assez particulier dans la comédie, et le cringe, ce terme anglais aussi, qui est les Anglais, c'est les plus forts de toute façon là-dessus aussi, qui est que c'est un humour du malaise et que le but, c'est d'aller chercher la limite entre « Oh là là, je peux plus, il faut que j'éteigne la télé et je suis mort de rire. »
Et à propos de malaise, et vous parliez de Ricky Gervais, pour moi l'une des séries les plus drôles au monde, c'est Extra, de Ricky Gervais, qui raconte les coulisses du cinéma vu par des figurants, où Ricky Gervais joue le rôle d'un figurant frustré de ne pas être acteur. C'est un sommet de gênance, de malaise extra.
Mais complètement. Mais de toute façon, c'est sa marque de fabrique. C'est-à-dire que même quand
After Life aussi.
Afterlife aussi. Ouais. Et même quand il a présenté les Golden Globes et autres, il a toujours eu pour. Il a mis un point d'honneur à mettre toute la salle très mal à l'aise, mais à un niveau où vraiment, ce qu'il a balancé aux stars qu'il avait en face de lui, c'est chaud, quoi.
Mais ce qu'il y a de génial quand c'est avec les stars, et c'est le cas dans Extra, il y a un épisode avec David Bowie qui est extraordinaire, où Bowie compose un morceau sur lui.
Et il joue son propre rôle.
En jouant son propre rôle. Et en fait, pour moi, c'est pour ça que pour moi, quand il présentait les cérémonies, c'était génial, parce qu'il détruisait Hollywood. C'est un sentiment différent quand il incarne, quand le cringe est dans la normalité, si je veux dire, quand c'est des gens comme nous, parce que ça demande à ce que nous, on se dise, ok, nous aussi, en fait, on est ridicule et il faut qu'on rigole de notre ridicule.
Vous pouvez voir Extra sur la plateforme Max et en DVD The Office. C'est disponible sur Netflix. Alors Pierre Langlais, vous recommandez chaudement une série franco-germano-belge, Parlement, créée par Noé Debré, et c'est disponible sur la plateforme France.tv.
Et il y a un peu de cringe là-dedans d'ailleurs, il y a un petit peu de malaise quand même. Donc le héros de Parlement, c'est un jeune homme qui arrive au Parlement européen pour être assistant, et on va le voir, il y a déjà 3 saisons qui existent, monter un peu dans les échelons. Globalement, il n'y comprend rien. Babel, tout ça parle dans plein de langues, il y a des incompréhensions permanentes, et ce qui est brillantissime dans cette série de Noé Debré, qui est un des meilleurs scénaristes du moment, qui a fait Le Dernier des Juifs l'année dernière au cinéma, et qui arrive à la fois à dézinguer l'Europe, son fonctionnement, ses dysfonctionnements, et à faire une série vraiment passionnée sur le fait que l'Europe est indispensable. Et c'est ça aussi les marques des grandes comédies, c'est que c'est des comédies qui savent à la fois taper sur les gens tout en disant « je vous aime ». Et ça, il arrive à le faire avec l'Europe, ce qui est quand même un tour de force, parce que c'est pas le matériau le plus simple à manœuvrer.
Et le plus sexy.
Ça s'appelle Parlement, et c'est disponible sur la plateforme de France Télévisions. Frédéric Sigrist, vous avez choisi une série que je ne connaissais pas, ça s'appelle Everybody Hates Chris. Tout le monde déteste Chris en bon français. Une série créée par Chris Rock et Ali Leroy. Une série sortie il y a une vingtaine d'années, c'est ça ? Et exactement. Disponible en DVD.
Oui.
Et Everybody Hates Chris.
Oui, tout le monde déteste Chris. Et c'est une série qui est narrée par Chris Rock lui-même, en version originale. Et on voit sa jeunesse quand il est arrivé à Brooklyn dans les années 80, dans un quartier qui craint. Et en fait, ses parents l'ont envoyé dans un collège de blancs, en espérant qu'il ait une meilleure éducation. Mais ce qui est formidable, c'est, à l'instar de Malcolm, c'est que c'est vraiment une série qui montrait des gens qui galéraient, qui peinaient à joindre les deux bouts, et notamment avec le père de Chris. Un homme, un acteur, mais pour lequel j'ai un amour fou, qui s'appelle Terry Crews, qu'on retrouve aussi au générique de Brooklyn Nine-Nine. Et c'est une sorte d'énorme masse bodybuildée, hyper musclée, mais qui a une vis comica incroyable, et il joue le rôle de Julius, un père qui fait 2-3 boulots, mais qui compte absolument tous ses sous, c'est-à-dire que dès que son fils mange un balisto, n'importe quoi, il sait combien il va coûter, et c'était hilarant.
Redonnez le titre.
Tout le monde déteste Chris.
Et on peut la trouver en DVD.
Alors, la première saison se trouve facilement sur MyCanal, mais pour le reste, il y a un imbriglio juridique comme seule la France en connaît. Logiquement, on devrait trouver tout ça sur Paramount, mais non, il y a plein de chaînes qui ont des droits, mais pour l'instant, c'est sur MyCanal.
Sandra Colombo, une série que vous aimez bien en quelques mots ?
Alors, Loot, L-O-O-T, en français, Lot. Avec Maya Rudolph, que j'adore, ah oui, qui est une immense star comique, qui est notamment dans SNL Saturday Night Live. Et c'est une série donc, qui raconte la vie de Molly Novak, qui fait donc partie des 1% les plus riches de la planète, parce qu'elle a épousé quelqu'un qui est devenu très très riche. Et elle croit qu'elle vit un amour parfait, que sa vie est géniale, que vraiment elle plane au-dessus de la masse. Et son mec la trompe et elle divorce. Et elle est très très malheureuse, mais elle reçoit pour le divorce 87 milliards de dollars et elle se dit « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça ?» Et en fait, elle décide de faire le bien. Et comme elle est totalement déconnectée de nous, pauvre mortelle, elle fait beaucoup de trucs débiles et c'est extrêmement drôle parce que ça parle aussi de la seconde chance qu'on peut avoir dans la vie. Et vraiment, moi, je me suis régalée. Et je voudrais juste dire, parce qu'on a entendu beaucoup en extrait, les voix françaises. Et la voix française de Maya Rudolph, c'est Barbara Del Sol, qui est formidable. Vous pouvez la regarder en VF, parce que tout le monde dit « Ah non, il faut regarder en VO ». Parfois, la VF, c'est super.
Pas comme ça.
S'ils le disent comme ça, Frédéric, je vous ai entendu ne parler. Non, arrêtez.
Et ça s'appelle Loot, L-O-O-T, d'Alan Yang et Matt Hubbard. Et c'est disponible sur Apple TV et MyCanal. Allez, il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Et Thibaut de Saint-Maurice, notre discussion ce matin, consacrée au plaisir des séries comiques, vous donne envie de questionner un peu plus ce qui nous fait rire.
Oui, et ce qui ne nous fait pas rire aussi, parce qu'au fond, ça marche donc dans les deux sens. Nous en faisons toutes et tous l'expérience, chacun, chacune. Il y a des blagues ou des situations qui nous font beaucoup rire, et d'autres, pas du tout. Une blague peut d'abord être mauvaise parce qu'on ne la saisit pas C'est peut-être une bonne blague, mais elle fait référence à quelque chose que l'on ne comprend pas et elle nous exclut finalement du rire qu'elle devait susciter. Et puis deuxième cas de figure, la blague est mauvaise non pas parce qu'on ne la comprend pas, mais parce que tout en la comprenant, elle nous semble de mauvaise qualité. On la juge vulgaire, trop facile, hein, comme elle piaffe comme Edith, ou... On le sait, l'humour et la comédie ne sont pas des sciences exactes. Il y a des conditions, des contextes culturels, des contextes politiques ou des références à connaître pour saisir le comique de telle ou telle blague. Mais il y a aussi une mécanique de l'humour, des styles, des techniques et des effets que l'on peut analyser, décrire et peut-être classer pour tenter de comprendre un peu mieux donc pourquoi nous rions et pourquoi parfois nous ne rions pas.
Et je sens que vous allez vraiment passer à la compta, mon cher Thibaut de Saint-Maurice. Alors, est-ce qu'il est possible de penser une sorte de mode d'emploi de l'humour ?
Par exemple, ça, c'était pas très drôle. Parce que c'était un peu violent.
Jamais refaire une mauvaise fan sur une mauvaise
fan. Voilà, c'est ça. Bon, alors écoutez bien, Ali. C'est toute la question, celle que
c'est
vous posez.
Aussi,
parce que ça pose le problème de savoir si l'humour est strictement individuel et dépend de chacun, ou si le sens de l'humour est un sens commun. Alors, il y a un peu plus de 2000 ans, le philosophe Aristote se posait déjà ces questions-là, à la fois quand il réfléchissait à ce qu'était la comédie et à la fois quand il réfléchissait à la vertu ou, si vous voulez, en clair, hein, à ce que nous devons faire pour mener une vie bonne. Aristote s'intéresse au rire parce qu'il remarque que c'est une qualité proprement humaine et qu'il essaye donc d'en penser les contours et les usages. Pour lui, le rire naît de l'inattendu ou de l'incongru. C'est un effet de surprise, en fait. On dit un mot pour un autre, on se retrouve dans une situation qui serait alors qu'on croyait en être sorti, on moque un comportement en le faisant apparaître sous un jour inaperçu. Et la capacité à faire rire, l'humour donc, c'est la capacité à surprendre et à faire surgir de l'inattendu dans la conversation ou dans des situations particulières. Mais encore faut-il donc savoir s'y prendre et savoir aussi n'exclure personne au risque sinon que les blagues tombent à plat. C'est ce qui fait penser à Aristote que l'humour n'est pas seulement une technique, mais aussi une vertu. Et comme pour toutes les vertus chez Aristote, il s'agit d'éviter l'excès. L'excès de la blague qui vire à l'humiliation ou à l'exclusion, et l'excès de la blague obscène, donc au sens strict, hein, tellement appuyé et répété, qu'il n'y a plus de surprise parce qu'il n'y a plus rien à saisir, plus d'inattendu à comprendre. Alors Aristote n'était certes pas humoriste, mais sa philosophie de l'humour me semble intéressante parce qu'elle attire notre attention sur le fait que l'humour a un impact moral, voire politique. Et le rire est pour lui aussi un sens relationnel, social, convivial, qui tisse et resserre le lien. Le rire, nous dit Aristote, unit plus qu'il ne divise. Et puis le rire apparaît aussi comme un défi à notre intelligence, comme une surprise pour l'esprit qui s'amuse, d'autant plus d'un sous-entendu à comprendre ou d'une image originale. Alors ça ouvre la possibilité de critiquer les mauvaises blagues, non pas parce qu'on n'aurait pas d'humour ou non pas parce qu'on les n'aurait pas compris, mais au contraire parce qu'on a de l'humour et qu'on préfère simplement de meilleures blagues.
Le regard de nos deux blagologues, Sandra Colombo et Frédéric Segrist.
Ben moi, je plus sois, hein. J'ai écrit tout un livre sur l'humour. Donc oui, vraiment, je suis tout à fait d'accord. L'humour, c'est beaucoup l'inattendu. Et l'humour, comme on en a un très bon exemple là, tout de suite, c'est qu'on est aussi beaucoup tous sur la même longueur d'onde. On est tous, on se connaît plus ou moins, on est tous branchés sur, on a les mêmes valeurs. Voilà, donc on peut rire très clairement. Vous n'irez pas à la comptette, croyez-moi.
Frédéric Segrist.
Moi, tout ce que j'ai envie de dire sur Aristote, c'est qu'on l'a jamais beaucoup vu dans des comédie clubs. Je le trouve super orgueilleux d'écrire des trucs comme ça, sous prétexte que j'étais là 200 ans avant. Enfin.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster et à partager sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de Céline Puertas, rédactrice en chef adjointe de Elle à table. Alors, en ce week-end de très froid, vous avez choisi un plat assez réconfortant, Céline Puertas. C'est une brioche perdue, salée, issue du tout nouveau numéro de Elle à table.
Tout à fait, un numéro qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui.
La une fait saliver, mais vraiment beaucoup, oui. Guillemette Odissino. Hein. C'est un...
Un monde d'or qui dégouline, oui. sur des pommes de terre.
On dit comme
voilà.
Ça, dit comme ça ouais, c'est... Je vous assure que la photo est jolie. Hein.
Ça vous pose
Donc oui, c'est un numéro avec que des recettes comme ça, bien grassouillettes. Mais en même temps, c'est ce qu'il nous faut en ce moment, clairement.
Comme moi,
clairement.
Donc, on parle aujourd'hui du plaisir des séries comiques. Mais moi, je voulais parler du plaisir d'engloutir un plateau télé devant sa série préférée, parce que c'est quand même la vie. En préparant l'émission, je suis tombée sur une étude absolument passionnante. accrochez-vous. Apparemment, 51% des Français plébiscitent la pizza pour leur plateau repas, 41% le fromage et 27% les olives. Voilà. Je me suis dit, wow, il faut que je partage ces infos. Du coup, pour changer de la pizza décongelée, je vous propose cette recette donc, de brioche. C'est tout simple. On prend deux tranches de brioche rassis, mais ça marche aussi avec un vieux morceau de pain de mie. Dans un saladier, on bat un œuf avec 20 centilitres de lait, puis on trempe les tranches dans ce mélange pour qu'elles soient bien imbibées, qu'elles fassent un peu floc-floc, avant de les faire dorer avec un peu de beurre dans une poêle pendant 5 minutes, qu'elles soient un petit peu plus... qu'elles aient une meilleure mine que nous aujourd'hui. Ça, c'est pas valable pour Ali, qui est toujours rayonnant.
Aussi, c'est méchant.
Bon, je parlais pour moi. Pendant ce temps-là, dans une autre poêle, on fait revenir 4 tranches de lard ou de bacon. On les met de côté une fois qu'elles sont un peu colorées, à nouveau, désolé. Et on profite que la poêle soit chaude pour lancer la cuisson de 2 œufs au plat. Ensuite, on empile sur une assiette une tranche de brioche, 2 tranches de bacon, un œuf au plat. Et voilà, je précise que cette recette est pour deux, mais que, évidemment, ouais. Vous avez le droit...
Non.
Comment ça, non,
j'ai même pas terminé. C'est pour une seule personne, ça.
Ah, bah merci, j'en attendais pas moins. Qu'évidemment, vous avez le droit de tout manger tout seul, en riant à gorge déployée devant votre télé. Hasard ou coïncidence, c'est exactement ce que j'ai prévu de faire demain soir, devant Macho Alpha, ma série chouchou, dont la 3e saison démarre demain.
Ça parle de quoi, en deux mots ?
Alors, c'est une bande de quarantenaires espagnols qui ont très macho, qui ont décidé de se déconstruire et évidemment ça se passe pas bien du tout et voilà et les deux premières saisons m'ont beaucoup plu donc j'attends
je suis d'accord c'est
impatiemment la troisième
c'est sur Netflix
ouais je suis d'accord c'est absolument épatant même si moi j'ai pas eu le droit de dire ma série préférée je la fourguerai une prochaine fois
et on peut retrouver votre recette de brioche perdue salée très alléchante dans le tout dernier numéro de Elle à table avec donc ce monde d'or à tomber qui excite beaucoup Guillemette Odissino. Allez, on se retrouve dans un instant avec la chronique de Sandra Colombo, Mauvaise langue. Ce sera juste après avoir écouté Junior qui interprète Monumental. Interprété monumental.
France Inter.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
Rends bien vous fasse.
C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
Ah, c'est sûr, elle est très gentille, Sandra Colombo.
Oh, le management toxique depuis le début de l'émission, c'est incroyable.
Alors,
qu'est-ce que c'était drôle.
Moi, je ne veux pas être mauvaise langue, Ali, mais est-ce que c'est pas un tout petit peu nul, la vraie vie? Non, est-ce que ça serait pas mieux si on habitait dans une série? Bon, c'est vrai que moi, grâce à mon super pouvoir, je vis déjà un peu dans une série comique. Ah, je vous vois tout ébobie, Ali. Et Bobby Ewing, bien sûr. Mais
oh là
oui.
Là.
Oui, Edith Piaf. Non, mais attendez, j'essaye d'être au niveau. Mais
pour les plus jeunes, Bobby Ewing, c'est l'un des héros de Dallas. Voilà. Et Bobby Ewing.
Et Bobby Ewing.
Le frère de JR.
Voilà. Tout à fait. Mais oui, oui, j'ai un super pouvoir. Et non, ça n'est pas de faire 1m50 et ainsi de pouvoir voyager tranquillement en classe éco, même si j'avoue que c'est un avantage certain. Non, mon super pouvoir, c'est avoir les mains en beurre. Ce qui consiste à faire quasi immanquablement tomber tous les objets qui se trouvent entre mes mains. C'est génial, je vous le conseille. Ah ben ça permet de faire des blagues sans en avoir l'air, mais aussi de passer la serpillière sans arrêt. Je peux vous dire que chez moi, c'est nickel. Ah ben à chaque fois que bim bam boum, les assiettes ou les paillettes s'étalent par terre, j'entends des rires enregistrés dans ma tête. Oui, comme dans Hélène et les garçons. Mais je dois avouer que je préférais vivre dans une autre série. Voilà. Par exemple, j'adorerais être dans Emily in Paris. Comme ça, je pourrais manger des croissants tous les jours, tout en rentrant dans un microscopique 36, léviter tel un petit elfe toute la journée sur des talons de 12, ne redoutant ni pavé, ni crotte de chien, ni trottinette électrique. Et bien sûr, porter au bureau la tenue que je mettrai le soir du gala où j'irai récupérer mon Molière. Ou mon César, hein, ou les deux, je ne suis pas sectaire. Ou je veux même bien un Oscar, même si my English is not fluid, fluid. Voilà. Est-ce que ça serait pas canon, Ali, Sandra, pas in mal. Paris eh, bah bien sûr. D'ailleurs, je ne pense pas être la seule à vouloir vivre dans Emily in Paris. Bah, il suffit de voir le ballet des touristes sapés comme jamais, affublés d'un béret et excités à l'idée de vivre leur meilleure vie, c'est-à-dire à faire des photos trop canons pour récolter plein de likes sur leur Insta, débarquer à la Gare du Nord. Parce que la vraie Gare du Nord n'a rien, mais alors a rien à voir avec celle de la série. Notre train de la réalité arrive en gare de la déception. Prenez garde à ne pas écrabouiller vos rêves en descendant sur le quai. Netflix et les scénaristes américains vous souhaitent une très mauvaise journée. Voilà, bon, moi hier je me suis dit, il y a une autre série dans laquelle j'aimerais bien habiter. C'est Ma sorcière bien-aimée. J'étais là en train de ranger mes décos de Noël au lieu d'écrire cette chronique. Bon bah je pensais que ça me prendrait une demi-heure et ça m'a pris quasiment une journée. Et bah si j'avais vécu dans Ma sorcière bien-aimée, j'aurais remué mon petit nez et pif paf pouf, terminado. Voilà, si tu n'as pas compris ce que je viens de dire, demande à ta mère. Alors, en revanche, j'ai arrêté de vouloir habiter dans Grey's Anatomy. Non, c'est bon, j'ai regardé les 20 saisons, je suis quasiment docteur. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'un conseil médical, demandez-moi, TPTC, NFS, chimie, yono, lame de 10, passez-moi les écarteurs, ça fera 2000 euros. Oui, je prends également l'American Express ou les crédits CTLM. Ah bah oui, hein, on est aux USA. Bon, ceci dit, va falloir vous habituer parce que ça va bientôt être comme ça en France. Si, si, croyez-moi, j'ai regardé les 3 saisons d'Hippocrate et je vous en fais le serment. Bref,
oh
oui, bah oui, il y a du travail. Bref, moi, je trouve que la vie, ça serait mieux si c'était comme dans les séries. Enfin, à condition de bien choisir sa série, hein, comme on l'a compris. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on vit de plus en plus dans Black Mirror et honnêtement, c'est pas super super. Alors, en ce début d'année, je nous souhaite de ne pas nous habituer à vivre dans Black Mirror, mais à cultiver la joie des plaisirs simples et vrais. Comme dans la petite maison dans la prairie.
Ah bah
bon, en attendant, je vais couper du bois, faire une tarte aux pommes et tirer les couettes de Nelly Olson. À bientôt.
En tout cas, moi, je valide. Hein, tout est Bobby et Bobby Ewing. Moi, ce,
merci,
ça me,
Ali.
Ça me plaît pas mal.
C'est pour ça que vous n'êtes pas à la tête d'une émission d'humour.
Exactement. Exactement. Vous avez bien raison, Thibaut de Saint-Maurice. Et vous pouvez vous abonner à la chronique Mauvaise Langue ainsi qu'aux autres chroniques du vendredi sur l'appli Radio France. Et évidemment, Sandra Colombo, on peut vous applaudir le mardi.
À 21h15 au point virgule et également en tournée dans toute la France.
Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Plaisir. Merci aux amis du vendredi. Thibaut, Sandra, Guimette, Céline et Christine. Merci Frédéric Sigrist. On peut écouter tous les épisodes de Blockbuster sur l'appli Radio France. Merci Pierre Langlais. On peut lire avec vous, avec profit, vos 3 livres, incarner une série, réaliser une série, créer une série, c'est chez Armand Collin. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Cyrine Benyounès et Lysiane Larbani, avec l'aide d'Antoine Poitras, notre nouveau stagiaire, à la réalisation Claire Destacan, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans Bel et Bien avec Agathe Le Caron sur France 2. Et lundi, comment arrêter de boire en ce dry January, en ce janvier sobre, sans passer pour un bonnet de nuit. On verra notamment comment le cinéma et les séries nous incitent à boire.